J'ouvre la porte et sors dans le jardin. La pluie s'est arrêtée. Je fais quelques pas dans l'odeur âcre de la pelouse détrempée. Des projecteurs s'allument autour de moi. Le décor est superbe, fantomatique, apaisant. Des rocailles, des étagements de terrasses à floraisons successives, les dernières roses de la saison entourées de chrysanthèmes japonais et de jasmin d'hiver. Je vais d'un arbre à l'autre, les enlace, ils m'accueillent. Je les sens, eux. Pas comme ceux du boulevard Sébastopol, ou alors c'est moi qui ai changé depuis tout à l'heure. C'est moi qui suis redevenu réceptif, identifiable. Qu'est-ce qui a rétabli la communication ? Cette confiance inquiète, cet appel que j'ai perçu dans la voix de Muriel, ou le fait d'avoir repris le contrôle de la situation au Forum des Halles. À nouveau, je me sens en harmonie avec mes frères immobiles. Je m'unis à leur fréquence, mon sang bat au rythme de leur sève. L'énergie que nous échangeons dilue les angoisses, les doutes, le malaise des villes. Depuis l'enfance, je ne suis vraiment bien dans ma peau qu'en touchant une écorce. 8 jours loin des forêts, et je n'étais plus le même homme. J'appuie mon plexus contre un saule, mon dos contre un hêtre pourpre. Je caresse les chênes et parle aux pruniers survivants dans le fouillis du verger. Mais ces retrouvailles sont gâchées par une question qui m'obsède. Pourquoi le piano m'a-t-il paru aussi familier que les arbres ? Jérôme Farge me rejoint, les mains dans les poches entre les pommiers morts, me dit qu'il ne se résout pas à les enlever, ils font tellement partie du paysage. Je lui réponds qu'il a raison, les pleurotes qui poussent sur le bois en décomposition mangent les vers nématodes qui s'attaquent aux racines vivantes. Avec leurs filaments gluants, les champignons forment des sortes de lasso qui, au contact de la proie, l'étouffent par gonflement des cellules. Sans les parasites de leurs voisins morts, les pruniers se porteraient moins bien. Il hoche la tête, murmure « Vous êtes vraiment botaniste ?»« Bien sûr que je suis botaniste. Je veux dire, vous êtes un confrère de Martin Harris, ça ne fait aucun doute. » Je le saisis aux épaules, le retourne vers moi. « Écoutez, docteur, cet homme a des faux papiers. La complicité de ma femme est la mission de me couler auprès de l'INRA dans mon combat contre les OGM. D'accord ? Je commence même à penser que mon accident est une tentative de meurtre avec préméditation. » Mon remplacement n'a pas pu s'improviser en 6 jours. Tout était prévu avant mon arrivée en France. Ils m'ont suivi depuis l'aéroport et au moment propice, je ne voudrais pas vous décevoir, mais la paranoïa est également un effet secondaire du glutamate. Vous me faites chier avec votre glutamate ! Le chien surgit, s'arrête à 1 mètre de moi, me fixe en montrant les dents. Souriez, dit Jérôme Farge en me tapotant l'épaule. Ayez l'air détendu, comme moi. Tout va bien, Troy. C'est un ami. On plaisante. Couchez. Le bas rouge s'allonge lentement sans cesser de me surveiller. Si je vous asticote, Martin, vous savez, c'est uniquement pour vous tester. Mesurer votre degré de certitude. Voir si vous croyez vraiment toutes les choses que vous me dites. Et vous, à quoi vous croyez ? Les yeux dans mes yeux, il répond : à votre humanité. Vous êtes quelqu'un de bien. J'en suis certain. Et qu'est-ce que vous en savez ? Je vous ai volé des ordonnances et je les ai vendues pour m'acheter ces fringues. L'aveu a jailli sans que j'aie compris cet élan d'agressivité, ce besoin de riposte causé par sa gentillesse. Mais il continue de sourire. Et ce n'est pas seulement à cause du chien. Il dit que c'est drôle, que la fille de Muriel lui a fait le même coup 2 ans plus tôt, quand il la suivait après sa tentative de suicide. Elle s'était prescrit des amphétamines, qu'elle était venue lui apporter en guise de provocation pour lui montrer qu'elle n'était pas tirée d'affaire, comme il le prétendait, qu'elle était libre de recommencer quand elle le voudrait. Il lui avait dit de les garder, comme un gage de confiance, une prise de risque dont il acceptait les conséquences. Elle les lui avait renvoyées par la poste, l'été suivant, avec la photocopie de son CAP de coiffure et un cliché de son petit ami. À titre de curiosité, combien ça se vend une ordonnance ? 150 €. Un peu amer, il constate que c'est plus cher qu'une consultation. Le bruit sourd d'un avion de ligne nous enveloppe. Les lumières des ailes clignotent entre les branches du saule, disparaissent derrière le toit de chaume. Autrefois, soupire-t-il, c'était le silence absolu ici, un vrai sanctuaire. Je goûtais l'absence totale de bruit comme on goûte un cognac, le verre au creux des mains. Ça ne reviendra jamais. Sa tristesse m'adoucit. Pour la première fois, je ne me sens plus en observation, en sursis. Le chien s'éloigne, va se coucher dans sa niche. Je cherche une parole de réconfort. En tout cas, votre jardin est très bien entretenu. Pour qui et pour combien de temps? Mon fils est enseignant à Tahiti, il vendra la maison à ma mort. Je me retrouverai à hanter le couple d'imbéciles qui la lorgne depuis des lustres, ajoute-t-il en désignant un pavillon derrière les chênes. Le genre qui s'agrandit chaque année, la famille modèle qui pond à tour de rôle et se réunit le week-end. L'hiver, ils utilisent un repousse-feuille à moteur en guise de râteau. Et le reste du temps, ils rasent leurs 800 mètres carrés avec un tracteur à gyrobroyeur. Ici, ils arracheront les arbres. Ils dynamiteront les rocailles pour tondre plus net. Leur idéal de jardin, c'est un golf. Il retourne vers sa maison, la tête basse. Je le suis. Vous avez faim ? Demande-t-il en entrant dans la cuisine, avec un regard de détresse pour la poêle vide sur le brûleur. Non, les cacahuètes, ça ira. J'ai des bretzels aussi, et des olives noires. Il prend la bouteille de Bourgogne sur le buffet, le tire-bouchon, et nous retournons nous avachir dans les coussins mous autour du feu. Au temps de ma femme, c'était le paradis ici. Du moins, je ne faisais pas attention aux nuisances. « Comment le trouvez-vous » s'enquiert-il en me voyant goûter le vin. « Parfait, » dis-je pour ne pas l'attrister davantage. Je vis depuis 5 ans avec un cancer sous contrôle. J'en ai un peu assez de la cohabitation, mais je me crois encore utile à trop de patients pour baisser les bras. J'ai eu quelques succès, j'ai publié les livres que je voulais, vécu 30 ans avec une femme heureuse, je ne me plains pas. Je finis mes Bourgognes et mon bois. J'ai encore 36 nuits Saint-Georges, 70. Il est 2/3 du chêne qui est mort l'année de ma femme. Il est déjà assez sec pour la cheminée, mais le vin se madérise, non ? J'acquiesce. Il me semblait bien à la teinte. J'ai perdu le goût depuis que je suis seul. Aguesie psychosomatique. Le seul cas que j'ai rencontré dans ma carrière, c'est moi. Il me reste le plaisir des yeux, la couleur et le souvenir. Le crépitement se fond dans le bruit des réacteurs qui s'éloignent, recouvert par un grondement plus proche. « Martin ? Oui ? Montez vous coucher, si vous voulez. » Je me redresse la tête vague, un goût de fumée dans la bouche. « Je me suis endormi ? Longtemps ? » 3 Airbus, le temps de rajouter une bûche et de me resservir un verre. « Excusez-moi, je vous en prie. » Ennuyer les gens quand je parle a dû contribuer à ma vocation de psychiatre. Le vin tourne devant ses yeux à la lueur des flammes. Il reprend au bout d'un instant. « Vous avez le sommeil instructif. » « J'ai dit quelque chose ?»« Vous avez appelé. 3 fois. »« Lise ? Vous voulez me parler d'elle ?» Je m'étire, vide mon verre, enfourne une poignée d'olives. « À quoi bon ? Je ne sais plus qui est ma femme. Je ne sais pas depuis combien de temps elle marche avec les autres. Je ne crois pas à cette idée d'un complot contre vous. Revenons sur votre ami, si vous le voulez bien. Vous n'y croyez pas non plus. Nous étions à l'hôpital. Si je n'affichais pas mon scepticisme, on aurait depuis longtemps sabré les crédits de mon service. » Il se lève pour redresser la bûche qui a roulé au bas des chenets. Il repose la pince, se retourne. Adossé à la cheminée, il me contemple un instant en allumant une cigarette, me tend son paquet. Je lui dis que je ne fume plus. Depuis longtemps ? C'est Lise qui a arrêté. Je nous revois partager un cigare au début de notre amour, nous le repasser toutes les 2 ou 3 bouffées à table, isolés dans une bulle de fumée, heureux de choquer les gens et de faire le vide autour de nous. Il se rassied. En juin dernier, une patiente est sortie d'un coma à Glasgow 4, comme vous, mais complètement amnésique. À chaque question que je lui posais, elle répondait « Il y a une basket trouée sur la corniche ». Et elle montrait le plafond. Tant et si bien que j'ai fini par demander qu'on vérifie. On a retrouvé la chaussure, deux étages plus haut, conforme à la description, mais placée de telle manière qu'elle n'était visible d'aucune fenêtre de l'hôpital, ni du sol, ni du toit, uniquement si l'on grimpait sur une échelle appuyée à la façade, ou si l'on flottait au-dessus de la rue. Je retiens mon souffle. Un poids s'est levé dans ma poitrine au fil de ces phrases. Une onde de légèreté glisse le long de ma nuque. Quand vous avez eu l'impression de quitter votre corps, dans quel état émotionnel étiez-vous ? Je ferme les yeux pour essayer de retrouver les sensations. Je n'avais pas peur. J'étais à la fois surpris et confiant. Mais ça m'a semblé tellement rapide. À quoi pensiez-vous ? À Lise, je voulais la prévenir de ce qui m'était arrivé. L'accident ou le décès ? L'accident. À aucun moment je ne me suis senti mort. Vous vous êtes retrouvé à ses côtés ? Je crois. Ensuite, il y a eu le tunnel de lumière, avec mon père qui m'a dit « Laissez tomber le tunnel, c'est Lise qui m'intéresse. » Vous étiez chez vous, dans votre chambre ? Je ne sais pas. Quand je cherche à retrouver le décor, c'est une autre image que je vois. Un autre jour, on est dans une rue de Manhattan et on s'embrasse. Je nous vois en contrebas comme si je planais au-dessus de nous. Dissocié, vous voyez votre corps en vie dans un moment du passé. Peut-être, mais je ne me rappelle pas avoir embrassé Lise à cet endroit. Où est-ce ? Au coin de la 42e et de la 6e avenue, sous le panneau qui donne le montant instantané de la dette nationale, avec la répartition par famille américaine, qui était de 66 209 $, dis-je machinalement. Votre mémoire est décidément d'une précision stupéfiante. Je rouvre les yeux.
Pour ce genre de détails à la con, oui, mais je n'ai aucun souvenir de ce baiser dans la réalité.
C'est une image symbolique. J'en rêve tout le temps. Le chiffre est le même ?
Toujours, et c'est le même point de vue.
Un rêve récurrent, identique à chaque fois, donc ?
Non. Là, quand je me suis endormi, je me suis retrouvé dans la même scène.
Sauf que Lise s'est écartée, et j'ai vu mon visage. Ce n'était pas moi. Logique. Votre rêve intègre la situation que vous affrontez en ce moment.
Mais ce n'était pas l'autre non plus. Je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai jamais vu.
Il soupire en se rejetant en arrière, croise les jambes. Le fond de votre problème me paraît vraiment être la jalousie.
Je n'ai jamais été jaloux. Avant mon accident, je ne soupçonnais pas que Lise avait un autre homme dans sa vie. Mais ça ne m'aurait pas gêné, au contraire.
Il lève la main pour que je le laisse parler. Vous êtes dans un coma profond, avec une activité électrique du cortex indépendante de toute sollicitation ambiante, d'accord ? Votre conscience déconnectée, appelons-la votre corps astral, se transfère alors dans la chambre de Lise, et vous la trouvez, mettons, en train de faire l'amour avec l'autre homme. Situation totalement insupportable pour vous, malgré ce que vous dites, au point que vous lui substituez en rêve l'image écran d'un simple baiser donné à un inconnu dans la rue. Mais là, sur le moment, dans la chambre, le double effet de la jalousie et du refus de mourir fait que votre corps astral investit la personnalité de l'amant, avec la même détermination qu'on a vue chez Rosita Lopez. Sauf qu'ensuite, un processus vital, déclenché ou non par votre refus de céder la place, vous fait sortir du coma, en pleine possession de vos facultés. Mais l'imprégnation demeure dans la mémoire de l'amant que vous avez squatté. D'où cette ubiquité mentale. D'où le fait qu'aujourd'hui, deux Martin Harris, aussi sincères l'un que l'autre, d'après ce que vous me dites, coexistent. Il marque un silence pour me laisser le temps d'assimiler. Ce que je ne m'explique pas, en revanche, c'est que votre femme ait choisi l'infester en vous rayant de sa mémoire. Je repose mon verre. Ça, je peux le comprendre.
Tout cela n'est que spéculation, bien sûr, dit-il en étouffant un bâillement. Laissez infuser, on en reparlera demain.
Je me lève, il me conduit à ma chambre, me souhaite bonne nuit, se retourne sur le seuil. Et il murmure d'une toute autre voix, avec une douceur désarmée. C'est la première fois que je réentendais le piano. Il s'éloigne dans le couloir, la tête basse. Je referme la porte, me déshabille, me glisse entre les draps brodés qui sentent la menthe et la cannelle. Deux lettres s'entrelacent sur l'oreiller, J et V. Moi aussi j'ai aimé Lise, passionnément. Pourquoi suis-je si détaché d'elle, au point de ne même plus lui en vouloir? Pourquoi son visage, quand j'éteins la lumière, se confond-il avec celui de Muriel, son corps avec l'image de la vendeuse du forum? Pourquoi des femmes inconnues s'ajoutent-elles dans ma tête à chaque avion qui passe? Et pourquoi suis-je si bien tout seul, ce soir, les jambes en compas dans ce lit à deux places?